Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui proposent toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal, David Doba.
La Thaïlande a connu hier l'attentat, semble-t-il, le plus violent de son histoire. Les autorités cet après-midi parlent de 22 victimes, des victimes principalement étrangères. Les autorités affirment que les responsables ont avant tout voulu frapper le tourisme. Bonsoir Olivier Guillard.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche Asie à l'IRIS. On va essayer de comprendre avec vous, alors d'une part, ce qui se passe, en tout cas, quels peuvent être les responsables de cet attentat, mais surtout, parce qu'on est sur BFM Business également, le côté économique de la chose. Alors commençons vraiment par le début. On entend beaucoup parlé depuis deux jours maintenant des chemises rouges. En clair, ce sont les opposants à la junte militaire au pouvoir. Avant de vous demander oui ou non si vous pensez que ce sont les chemises rouges, il faut rappeler, la Thaïlande, aujourd'hui, certains la qualifient de dictature. On n'en est peut-être pas là au vrai sens du terme, mais on n'est pas non plus dans une démocratie politique.
Vous avez raison, en définitive, donc ce régime qui est un régime un petit peu ad hoc, c'est un régime qui est particulier depuis un an, nous avons une junte militaire qui est revenue s'imposer donc par la voie, j'allais dire, des débottes et non pas par celle des urnes, et qui a repris des mains donc d'une Thaïlande un peu plus démocratique, celle qui a gagné les élections, toutes les élections de scrutin du 21e siècle, 2001, 2003, 2006, etc. Bref, les militaires sont revenus au pouvoir parce que ce que l'on appelle l'establishment en Thaïlande, à savoir des milieux proches du palais royal, des élites urbaines, des milieux bancaires, industriels, donc cette Thaïlande d'en haut, ne voulait pas continuer à perdre les élections et à devoir espérer un retournement de circonstances électorales pour revenir au pouvoir. C'est, mathématiquement, c'est désormais compliqué parce qu'une grande partie des électeurs birmans, pardon, ce sont les voisins, des électeurs thaïlandais maintenant votent, notamment ceux qui sont extraits de cette partie du nord-est du pays, ceux qui ne votaient pas préalablement et qui ont trouvé des champions pour leur cause aux thèses un peu plus populistes. Ces gens-là sont majoritaires, dès qu'il y a des élections, ils les remportent. Ça frustre l'establishment qui est revenu au pouvoir après une crise politique qui a duré donc au moins 2-3 ans.
Sans réellement porter l'uniforme d'ailleurs, ils sont venus.
Ah, écoutez, d'une certaine manière, en définitive, celui qui est aujourd'hui le Premier ministre, c'est l'ancien chef d'état-major des armées, donc l'ancien patron des armées. Il s'est civilisé en quittant ses habits militaire pour gagner un habit civil. Il se prénomme aujourd'hui, je suis le Premier ministre, ex-général M. Prayut. Toujours est-il que ce régime est militaro-militaire sous des habits civils. Mais c'est une junte qui ne porte pas son nom, qui l'est pourtant, et qui a considérablement, certes, ramené, baissé le niveau d'instabilité dans le pays, en ramenant l'ordre et en essayant de ramener une sorte d'état de droit, mais au prix donc d'un couperet monstrueux sur les libertés publiques et individuelles.
Je vais vous demander, ça passe par quoi? Ça passe par une presse peut-être un peu plus muselée?
Ah, ça, indiscutablement. Je peux vous dire que vos collègues un petit peu sentent le vent du couperet depuis un an, donc à Bangkok et dans le reste du pays. Ça passe aussi par des restrictions qui sont saines un petit peu, qui ne sont pas du tout les atours d'une démocratie. Par exemple, l'interdiction de manifester, l'interdiction de se réunir dans la rue, sans un préavis, donc, fait auprès des autorités. Ah. Et se réunir à plus de 4 personnes dans la rue en Thaïlande aujourd'hui, c'est considéré comme une sorte de début de trouble à l'ordre public. Donc, vous imaginez un petit peu.
Donc, cette junte militaire, aujourd'hui, elle montre clairement du doigt ses opposants, les fameuses chemises rouges. Là, pour le coup, ce sont des gens qui sont plus proche du peuple, en tout cas plus proche de la base.
Absolument. Bon, et ça, c'est un petit peu le contexte général du pays. Il a été facile pour les autorités, dans un premier temps, de se dire, bon, voilà, nous sommes prises au dépourvu, donc, face à un phénomène que nous n'avions pas connu d'une manière aussi violente, dans le cœur de la capitale. Et alors même que, d'un côté, nous avions les autorités qui disaient, écoutez, pour l'instant, nous ne savons pas, dans la foule immédiate, le doigt a immédiatement été pointé sur la foi de quelques images glanées sur une vidéo de surveillance. Voilà, on pense que cet individu-là, donc, est originaire du nord-est du pays. C'est probablement, donc, d'après est-ce qu'on en déduit un militant ou un représentant donc des thèses populistes des chemises rouges, donc de l'ancien Premier ministre populiste Shinawatra, etc., etc. Les autorités thaïlandaises actuelles ont été bien promptes à trouver une peut-être, je ne suis pas en train de vous dire de nous dire qu'elles arrangent la réalité un petit peu à leur fin ou à leurs besoins, mais en tous les cas donc leur gestion de ces événements pour l'instant n'a pas suscité énormément d'admiration ni dans le royaume ni à l'extérieur.
Quel serait l'intérêt pour les chemises rouges de perpétrer un acte aussi sanglant et surtout qui toucherait l'économie, le cœur de l'économie thaïlandaise?
Probablement aucun. C'est ce qui en fait donc une sous-thèse, si je puis dire, qui est difficile à concevoir, sauf à ce que les chemises rouges soient ces derniers mois totalement radicalisées, ce qui n'est probablement pas du tout ce que l'on en sait d'un point de vue au moins académique dernièrement. Donc les chemises rouges, pas plus que n'importe qui d'autre en voulant à la stabilité ou revenir au pouvoir dans ce pays, n'oserait concevoir comme projet. Donc c'est une thèse qui tient vraiment sur un mode ultra bancal. N'oublions pas que donc, dans ce pays qui est le pays du sourire, qui est un pays donc, dont l'économie, on en discutera après, donc peine à redémarrer suite à une crise politique qui se prolonge, aux conséquences, aux ondes de choc un petit peu de la fragilisation du marché chinois également. C'est un pays qui a peine à se ressouder autour de thèses fortes, de thèses nationales. Il y a l'autorité flagellante d'un souverain qui est âgé, qui ne réussit plus tout à fait à avoir donc son rôle de « je soude la population du royaume derrière une thèse ». En pointant du doigt la responsabilité de ce fait sur les opposants qui, légitimement, eux, demandent à revenir au pouvoir tout à fait normalement par la voie des urnes, ça permet à cette junte de dire, écoutez, si vous êtes sous loi martiale quasiment encore, c'est parce qu'il y a des ennemis à l'intérieur et nous ne pouvons pas vous redonner la démocratie. Le prochain scrutin, allez, on parle de 2017, c'est bien parti pour être repoussé au calendrier grec encore un certain temps. Ça légitime peut-être d'une certaine manière un petit peu la façon dont se gère aujourd'hui militaro-militairement la Thaïlande.
Alors qui pourrait avoir intérêt aujourd'hui à attaquer la Thaïlande?
C'est une accusation grave que nous pourrions, donc nous n'allons pas être aussi radical que ça ce soir. Donc il y a plusieurs parmi les grandes thèses qui sont élaborées pour savoir quels pourraient être les instigateurs. Il y avait cette thèse politique que nous évoquions à l'instant. Honnêtement, on y croit relativement peu. La deuxième est, vous savez que dans le sud de ce pays qui est majoritairement donc bouddhiste, il y a quatre provinces qui sont voisines de la Malaisie, République islamique. Donc ces quatre provinces du sud sont peuplées donc de populations d'une culture et d'une foi, d'une culture malaise, qui parlent donc le malais, qui sont de confession majoritairement musulmane et qui donc demandent une gestion particulière de leur quotidien au pouvoir, donc à Bangkok, en disant écoutez, nous ne sommes pas, notre histoire n'est pas vraiment thaïlandaise. Elle n'est pas siamoise, nous ne sommes pas de confession bouddhiste, nous voudrions donc être gérés d'une façon différente. Refus des autorités, dialogue politique, on verse vers la violence au début des années 2000, et donc depuis de 2004 à ce jour-ci, donc ces violences qui sont quotidiennes, assassinats politiques, destruction de biens publics, attaques contre les symboles de l'État, font 5 ou 6 000 morts. Il y a eu des attentats, quantité, mais jamais donc portés au-delà de ce périmètre des provinces du Sud. Donc on pourrait se dire, peut-être qu'on se téléporte d'une certaine manière du Sud vers le Nord pour envoyer un message particulier, ça fait partie des thèses. Dans les deux autres que l'on peut encore rapidement évoquer pour nos auditeurs, il y a quelques jours, les autorités thaïlandaises ont déporté, à la demande des autorités chinoises, une centaine de ressortissants chinois ouïghours, donc des Chinois d'extraction culturelle différente, donc de confession musulmane, qui ont été extradés contre leur gré. Ces gens-là ont aussi donc des leaders qui sont parfois un petit peu radicaux. On en trouve également donc dans la province de Xinjiang, dont ils sont originaires, mais également aussi en Afghanistan ou au Pakistan. On pourrait penser qu'on ne sait pas peut-être qu'une mesure de rétorsion aurait été de perpétrer cet attentat. Dernière thèse possible, en tous les cas parmi celles qui sont élaborées aussi. Dans ces provinces du Sud, donc traversées par un mouvement séparatiste musulman radical, il y a aussi des fois des hôtes qui sont non pas originaires de la région, mais d'Afghanistan, de pays moyen-orientaux, proches de thèses d'Al-Qaïda ou de l'État islamique. On pourrait se demander si, d'une certaine manière, ils ne sont pas impliqués.
Je disais tout à l'heure, le tourisme est aujourd'hui la branche de l'économie qui marche le mieux en Thaïlande. Économiquement parlant, la Thaïlande, même si elle est le moteur de la région par rapport à d'autres pays qui sont plus en difficulté qu'elle, reste quand même un pays qui ne se porte pas extrêmement bien.
Vous avez raison. Donc, je pense qu'en 2014, ça devait être la deuxième économie d'Asie du Sud-Est derrière l'Indonésie, probablement, et la Malaisie. Donc, c'est une économie qui peine à redémarrer. Son image a été particulièrement heurtée par cette interminable crise politique qui a mené pendant des semaines ou des mois, jusqu'encore en 2010 et 2011, certains quartiers de la capitale.
Les affrontements en plein cœur de Bangkok.
Ça avait complètement nui à l'image donc attractive de ce pays. Les investisseurs étrangers, prenons par exemple le secteur automobile japonais, avaient donc montré des dents, disant écoutez, si cette crise économique perdure, eh bien nous irons nous installer ailleurs, au Vietnam par exemple, au Cambodge, pourquoi pas en Indonésie. Donc il s'agissait un petit peu d'essayer de redonner un peu d'allant, de reconstruction partielle de la stabilité du pays pour redonner un petit peu de crédit. Vous évoquez le secteur du tourisme. Le secteur du tourisme l'année dernière devait être à peu près représenté de 8 à 9 % du PIB national. C'est considérable.
Il est en augmentation ce secteur.
C'est un secteur qui en définitive et au-delà même donc de son importance dans la création de richesses emploie des centaines de milliers donc de foyers thaïlandais, donc c'est un secteur important, et alors même que l'économie donc nationale était légèrement en train de se dégrader dans sa conséquence de cet environnement politique un petit peu ténu, le tourisme marchait relativement bien. Ce coup porté à Thaïlande, à la Thaïlande dans le centre de Bangkok, va certainement donc marquer un coup d'arrêt temporaire, certainement, ces prochains jours, ces prochaines semaines, ça redémarrera certainement dans 2 mois. En tout cas, c'est une mauvaise nouvelle en termes d'attractivité.
Si, évidemment, il n'y a pas d'autres actes sanglants d'ici là.
On peut imaginer.
Il y a eu une deuxième explosion qui n'a pas fait de victime, mais il y a eu une deuxième explosion.
C'est vrai, mais enfin, je la mettrais pas tout à fait dans la même catégorie. Ça ressemblait plutôt à un gros pétard ou une bombinette, en définitive, qui, je la mettrais pas du tout avec le même niveau ni d'importance, ni de. Je suis persuadé que l'instigateur n'est pas le même non plus, d'une certaine manière. Donc, en tous les cas, l'économie qui avait besoin d'un certain souffle, qui est impacté, on le disait il y a quelques minutes par ce ralentissement de l'économie chinoise, en définitive, là, donc c'est une mauvaise nouvelle pour les investisseurs étrangers en Thaïlande, mais également pour les Thaïlandais eux-mêmes.
Qui vit du tourisme en Thaïlande ?
Énormément de personnes, donc c'est l'industrie hôtelière, c'est l'industrie des transports, c'est l'industrie donc de la restauration, c'est toutes ces petites gens qui vous vendent un petit peu tous ces colifichets. Je ne parle même pas d'une partie de l'industrie liée au tourisme qui est un petit peu moins avouable et qui attire malgré tout donc énormément d'occidentaux notamment. C'était énormément de personnes qui sont touchées un petit peu par ce coup qui était, par ce coup dur, donc par cet attentat dans le centre de Bangkok qui était de toute évidence par anticipé par absolument personne.
Est-ce que, mine de rien, on peut, et vous l'évoquiez il y a un instant, ces affrontements en plein cœur de Bangkok jusqu'en 2011, est-ce que le pays peut rebasculer comme ça, si les autorités continuent de montrer du doigt les chemises rouges, est-ce que le pays peut rebasculer dans ces oppositions ?
C'est une excellente question. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que la pommade qu'appliquait au printemps 2014 la junte militaire en disant voilà, nous remettons un petit peu les pendules à zéro, nous venons ici simplement en termes de volonté de stabiliser le pays, arrêter donc de ces fractures politiques, n'a absolument pas résolu la crise. Le pays est fracturé selon des lignes politiques très dures, antagonistes d'une certaine manière. Seul l'ordre public a été ramené. Ceux à qui on dénie un petit peu le résultat des dernières élections, donc ceux qui sont plus proches de thèses populistes de la Thaïlande entre guillemets d'en bas n'aspirent qu'à une seule chose, c'est qu'on leur donne le droit de réexprimer leur opinion dans un scrutin. Lorsque le général Prayut est arrivé l'année dernière au pouvoir, donc il nous a donné une feuille de route en disant pour ces 6 prochains mois, il ne faut pas espérer une élection, peut-être dans un an si les choses se stabilisent. De un an on est passé à 1 an et demi, à 2 ans, et il y a encore quelques jours avant même ces tristes événements était évoqué un probable scrutin courant 2017. Donc en fait, d'une certaine manière, la Thaïlande d'en bas attend son heure pour revenir un petit peu autour des bureaux de vote et apporter leur bulletin en direction donc d'un retour de la démocratie. J'ai l'impression que ça va être quand même assez compliqué.
Est-ce que, si vous le disiez, le pays va connaître pendant quelques mois un coup d'arrêt, en tout cas pour ce qui est du tourisme, et peut-être même plus si ces actes sanglants sont amenés à se répéter, est-ce que d'autres pays avoisinants peuvent profiter d'un déplacement du tourisme ?
C'est une très bonne question. Oui, ce ne sont pas les prétendants à long tour qui font défaut. Nous avons donc le Cambodge et la Birmanie qui ont des velléités pour récupérer une partie, déjà pour étendre leur part de marché sur ce secteur régional qui est porteur. La Birmanie donc s'ouvre de plus en plus à mesure pratiquement que la Thaïlande connaît des difficultés depuis 4 ou 5 ans. Pour vous donner un petit exemple, il y a 4 ou 5 ans, la Birmanie donc devait recevoir l'équivalent de 400 à 500 000 visiteurs étrangers. L'année dernière, on a dépassé le stade des 3 millions et on a des objectifs de 10 millions de visiteurs à horizon 2020. Donc il y a des prétendants dans la région, le Laos également donc d'une certaine manière, et puis sans aller très loin, nous avons un peu plus au sud-est, nous avons donc l'Indonésie et ses 17 000 îles qui sont prêts à accueillir tous les gens qui décideraient d'aller ailleurs que dans le royaume thaïlandais.
Merci beaucoup Olivier Guillard pour vos explications extrêmement claires. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche Asie à l'IRIS. Merci encore.
Merci.
Vous restez avec nous, on marque une petite pause sur BFM Business, et puis juste après on s'intéresse au cours du pétrole qui ne cesse de baisser. À tout de suite. Alors, les cours du pétrole donc qui ne cessent de baisser depuis, on le disait, nous sommes en ligne avec Francis Perrin, bonsoir. Merci d'être avec nous. On le voit donc le pétrole une nouvelle fois qui marque le pas. C'est même du jamais vu depuis 2009, on va dire. Que se passe-t-il concrètement actuellement sur les marchés, Francis Perrin?
Il y a d'une part la poursuite d'éléments bien connus antérieurement, notamment l'excédent de l'offre pétrolière mondiale sur la demande, l'attitude de l'OPEP qui non seulement n'a pas réduit son plafond de production, mais qui en fait a augmenté sa production au cours des derniers mois. Il y a le ralentissement de la croissance de la demande de certains pays émergents et en développement, à commencer par la Chine, qui pèse d'un poids énorme, c'est le deuxième consommateur mondial de pétrole derrière les États-Unis. Mmh. Et puis il y a l'anticipation du retour de l'Iran, du retour en force de l'Iran sur les marchés pétroliers. Il y a eu l'accord du 14 juillet sur le programme nucléaire de ce pays. On sait que cet accord met en place un processus qui va s'étaler sur quelques mois, mais que normalement, si tout se passe bien, évidemment, notamment à Washington, à partir de la fin de l'année ou du début 2016, l'Iran verrait les sanctions internationales prises à son encontre commencer à être levées. Et l'Iran a annoncé clairement la couleur. Nous voulons revenir en force sur le marché pétrolier et gazier, d'ailleurs. Nous voulons augmenter significativement dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent notre production et nos exportations de pétrole et de gaz. Et il est clair que la tendance actuelle des prix comprend en partie une anticipation de ce retour de l'Iran, probablement à partir du début 2016.
Alors, arrêtez-moi si je me trompe, hein, mais il y a un an, on entendait dire que le pétrole à $200 le baril, ça allait devenir une réalité, même une triste réalité quotidienne. Aujourd'hui, on dit, bah non, finalement, ce sera autour de 40-45 dollars le baril. Où est le juste milieu dans tout cela?
Alors, ça, c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. Mais effectivement, aujourd'hui, nous sommes avec un trend qui est environ à 48,50 dollars par baril sur le marché de Londres. Mais le Brent de la mer du Nord, ce n'est pas tous les prix du pétrole. Hein. Les prix du pétrole américain, notamment le West Texas Intermediate, on est à environ 42-43. Donc on est actuellement sur une fourchette entre 40 et 50 dollars par baril, ce qui est très bas pour les prix du pétrole à travers le monde. N'oublions pas qu'on était à 115 dollars par baril en juin 2014. Très souvent, on a tendance à raisonner par extrapolation. Quand les prix étaient très élevés entre 2011 et la fin du premier semestre 2014, beaucoup de personnes, y compris des experts, disaient, ben voilà, on est parti pour une période assez longue de prix du pétrole élevé, voire toujours plus élevé. Et vous avez raison, une grande banque d'affaires avait évoqué 200 dollars par baril. Et puis, à partir de l'été 2014, la situation s'est renversée, le marché a évolué. Il y a eu ce bouleversement, notamment lié à la montée de la production de pétrole non conventionnel aux États-Unis et au Canada. Mmh. Le risque maintenant, c'est qu'on extrapole dans l'autre sens et qu'on dise les prix du pétrole ne seront plus jamais élevés. On est parti pour une longue période de prix bas du pétrole. Ce qui est clair, c'est que si la fin de l'année, on ne voit pas très bien ce qui pourrait faire remonter significativement les prix du pétrole, et d'ailleurs aussi en 2016 avec le retour de l'Iran, mais de là à partir du court terme pour extrapoler vers le moyen et le long terme, je crois que ce serait faire une même erreur en sens inverse que celle qui a été faite lorsque les prix du pétrole étaient élevés. La demande pétrolière mondiale continue à augmenter, même si elle augmente moins rapidement que prévu. Il y a quand même des tensions géopolitiques très fortes dans certaines zones qui sont des zones très importantes pour la production et l'exportation de pétrole. Et puis, le pétrole, et c'est un point qu'il faut toujours rappeler, c'est une ressource énergétique qui n'est pas renouvelable.
Oui, pardon, Francis Perrin, vous l'évoquiez, il nous reste très peu de temps et la communication est un peu complexe, mais juste d'un mot, parce que vous l'évoquiez, j'aimerais qu'on s'y intéresse un petit peu plus en détail. Aujourd'hui, mine de rien, cette situation à ce prix du pétrole handicape un certain nombre de pays, on pense à l'Arabie Saoudite, on pense au Nigeria et bien d'autres.
Elle handicape tous les pays producteurs et exportateurs de pétrole sur au moins trois aspects clés. Baisse très forte de leurs recettes d'exportation, ce qui a un impact sur leur balance commerciale, leur balance des paiements. Baisse très forte de leurs recettes fiscales, ce qui a un impact sur leur situation budgétaire interne. Et ralentissement de leur croissance économique, parce que ce sont souvent des pays en développement ou émergents qui sont très dépendants du pétrole et du gaz. Donc ce triple effet sur le commerce extérieur, sur le budget, l'équilibre budgétaire et donc souvent l'accroissement des déficits budgétaires et sur le ralentissement de la croissance économique, mais plusieurs de ces pays en grande difficulté, ils sont moins à même de répondre aux besoins socio-économiques de leur population, ce qui peut aggraver ou relancer ou générer des troubles et des tensions politiques.
Évidemment. Merci beaucoup, Francis Perrin, pour votre présence ce soir dans le Grand Journal. Francis Perrin, donc le président de Stratégie et de Politiques Énergétiques. Merci encore. Vous restez avec nous. Toute petite pause sur BFM Business. Et puis, dans un instant, on s'intéresse à un tout autre sujet puisque nous serons avec François Asselin, le président de la CGPM. C'est à suivre.
BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le Grand Journal, David Dauba.
La loi Rebsamen, promulguée aujourd'hui au Journal officiel, adoptée le 23 juin dernier à l'Assemblée nationale, elle vise à simplifier le dialogue social. Bonsoir François Asselin.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, président de la CGPME. Alors cette loi donc était officiellement promulguée donc au Journal officiel. On se souvient que la création notamment de commissions régionales représentant les TPE avait provoqué une véritable protestation de votre part. Il va désormais vous falloir faire avec.
Oui, il faudra faire avec puisque la loi c'est la loi, donc il faudra l'appliquer malheureusement. Je crois qu'il faudrait faire un petit peu de rétropédalage et se souvenir de ce qu'était à l'origine l'objet de cette loi, c'est-à-dire que il était question de soulager les seuils des entreprises, parce que vous savez qu'en France, il y a un problème de seuil, c'est-à-dire que lorsqu'on franchit le seuil de 10 salariés, il y a moins d'entreprises que de 9 salariés, lorsqu'on franchit le seuil de 20 salariés, il y a encore moins d'entreprises, lorsqu'on franchit le seuil de 49 salariés, c'est idem, donc on a un véritable problème de seuil. Donc cette loi était faite pour soulager et faire en sorte de gommer les seuils, et malheureusement, avec ces commissions paritaires régionales, eh bien on rajoute un seuil supplémentaire, une contrainte supplémentaire sur ce qu'on appelle les TPE, à savoir les entreprises de moins de 11 salariés. Donc nous, effectivement, à la CGPME, nous étions vent debout contre ces commissions régionales qui ne vont rien apporter, puisque si la question c'est de faire en sorte que la courbe du chômage eh bien, change de d'inversion, eh bien là on est mal parti. Donc effectivement, cette loi Rebsamen, en tout cas sur ce volet-là, n'est pas une bonne nouvelle.
Des commissions de ce type existent pourtant au niveau de l'artisanat et semble-t-il, eh bien les syndicats sont plutôt satisfaits.
Bien sûr qu'ils sont satisfaits. Pourquoi ? Parce que à travers ces commissions, eh bien chacun touche de l'argent lié au paritarisme, c'est-à-dire que s'alimentent les caisses des organisations syndicales aussi bien professionnelles, celles qui participent que les organisations syndicales de salariés. Voilà. Donc demain il faut réinventer le syndicat sans adhérents, eh bien prenons cette voie, on va finir par y arriver.
L'autre point noir de cette loi, c'est qu'il n'y a au final pas grand-chose sur les seuils sociaux. Et puis, il y avait également une polémique autour du fameux compte pénibilité.
Alors, le compte pénibilité, en fait, la loi Rebsamen demande à ce que le compte pénibilité soit partie intégrante du CPA, le compte personnel d'activité. Sauf qu'il va falloir maintenant résoudre ce que c'est que le compte pénibilité. Effectivement, nous voulions absolument que nous ne voulions pas à la CGPME que la comptabilité quotidienne de l'ensemble des facteurs d'exposition au risque, eh bien, soit du ressort du chef d'entreprise.
Mais justement, est-ce qu'il a été simplifié alors au final ce compte pénibilité ?
Il a été simplifié sur trois points. Premièrement, eh bien, il va y avoir des référentiels de branche ou des référentiels métiers. Donc, si vous avez tel métier, eh bien, vous aurez tant de points pénibilité suivant le métier que vous occupez pendant une période donnée. Deuxièmement, juridiquement, le système devient sécurisé pour l'employeur contre la faute inexcusable. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est extrêmement important sur le plan de la sécurité juridique de l'entreprise et de l'employeur. Et puis troisièmement, nous avions demandé du temps, du délai pour mettre en place ces référentiels de branche. Nous avions demandé un an. Nous n'avons que 6 mois, c'est-à-dire qu'au 1er janvier 2016, il faudra que les référentiels de branche rentrent en application, et je peux vous dire qu'on est encore loin du but.
Voilà, vous allez me dire non, mais je vous pose quand même la question, est-ce que ce sera suffisant ?
Oh, ça sera compliqué, d'autant plus que la vraie question que personne n'a encore posée, il faudra bien résoudre, c'est-à-dire combien ça coûte. Parce que nous avons au mois d'octobre un rendez-vous important qui est la négociation sur les retraites complémentaires. Nous ne savons déjà pas comment nous allons pouvoir sortir de cette négociation qui est extrêmement complexe, puisque tout simplement les caisses dans 2 ans, ce qui concerne l'AGIR, qui est les caisses complémentaires de retraite, seront vides. Et en plus, il va falloir trouver de l'argent pour mettre en place les comptes pénibilité. Donc tout cela, effectivement, va être compliqué.
Quelles sont les premières estimations ?
Oh, les premières estimations, si vous voulez, elles vont résulter du travail fait par justement les branches professionnelles. C'est-à-dire que suivant, on va dire, la grille du tamis, eh bien, vous aurez plus ou moins de salariés qui seront concernés par la pénibilité. C'est-à-dire que lorsqu'il va falloir travailler sur ces référentiels de branche, il va falloir essayer d'estimer que suivant tel métier, eh bien, vous avez ou pas accès à des points pénibilité qui vont vous permettre peut-être de partir 2 ans plus tôt en retraite. Donc, si on raccourcit la durée de vie au travail, eh bien, comment la financer lorsque déjà les retraites complémentaires, on a du mal à trouver la solution pour les financer.
Vous parliez d'un rendez-vous en octobre, il y en a un deuxième, la grande conférence sociale qui est attendue. D'ores et déjà, Jean-Claude Mailly a annoncé qu'il n'était pas sûr d'y participer. Il dénonce une opération de com' du gouvernement. Quel est votre point de vue ?
Oh, mon point de vue, c'est qu'il faut être efficace et donc pragmatique. C'est-à-dire que si on doit se retrouver pour simplement discuter de ce qui va, de ce qui ne va pas, sans agir, effectivement, cette conférence risque d'être assez stérile.
Conférence au cours de laquelle on doit beaucoup parler de travail, notamment, et de l'emploi.
Oui, ben, ce qu'il faut surtout, c'est parler de l'emploi et trouver des solutions. Je ne vous rappelle simplement que les chiffres du chômage sont absolument dramatiques en France, hein, que nous avons une croissance qui est en berne. Nous espérons que c'est simplement, je dirais, un passage à vide et que ça va vite reprendre dès la rentrée. Mais en attendant, ceci n'est pas très bon augure pour espérer la reprise de l'emploi. Parce que sans croissance, on aura beau faire tout ce que l'on veut, on n'arrivera pas à créer d'emploi en France. Donc, la vraie solution au chômage, c'est avant tout de faire repartir la machine économique. Ça, c'est le plus important, la plus importante des choses à obtenir.
Bon, en tout cas, si on vous convoque, et vous serez évidemment convoqué, vous irez.
Bon, écoutez, on ira, on va d'abord regarder l'ordre du jour, on va regarder de quoi il sera question, et puis moi, ce que je veux, c'est tout simplement être efficace. C'est pas plus compliqué que ça. On n'a pas de temps à perdre, il faut être efficace. Il y a beaucoup de Français qui sont en demande d'emploi, il y a beaucoup d'entreprises qui attendent de voir, je dirais, la sortie du tunnel. Ça fait trop longtemps que ça dure, donc il faut effectivement être maintenant extrêmement actif et pragmatique.
Vous évoquiez la courbe de l'emploi. François Rebsamen doit donc présenter demain au Conseil des ministres sa démission. Quel bilan est-ce que l'on peut tirer de son passage au ministère de l'Emploi ?
Vous savez, je viens de vous le dire, ce qui permettra à la France de sortir de l'ornière, c'est tout simplement l'activité économique. Donc le ministre du Travail, il peut, je dirais, s'agiter dans tous les sens. Si économiquement on ne met pas en place une politique qui favorise le développement des entreprises, eh bien on aura beaucoup de difficultés à infléchir la courbe de l'emploi. François Rebsamen aura connu pendant son mandat 200 000 emplois, 200 000 chômeurs supplémentaires. Depuis l'arrivée du président Hollande à la tête de l'État, eh bien c'est à peu près plus de 500 000 personnes qui ont perdu leur emploi. Si nous devions, dans 2 ans, eh bien avoir un bilan positif, il faudrait déjà retrouver 500 000 emplois en France, ce qui est considérable sur une si courte période. Donc je peux vous dire qu'effectivement, le nouveau ministre du Travail va avoir fort à faire.
Il y a plusieurs noms évidemment qui circulent aujourd'hui. On entend parler de Stéphane Le Foll, de Michel Sapin, d'Emmanuel Macron et Jean-Claude Mailly. Parler pour sa part de Jean-Marc Germain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous semble, dans les noms que je vous ai cités, apte à prendre ce poste au ministère du Travail ?
Les enjeux sont considérables. Comme il n'y a pas de boulot, le ministre du Travail aura beaucoup de travail. Je ne vais pas, avant de connaître, je dirais, le résultat du casting, faire de tel ou tel commentaire sur telle ou telle personne. On peut faire un pré-casting, mais premièrement, je ne les connais pas tous personnellement. Deuxièmement, je crois qu'il faut regarder les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, quelle que soit la personne qui soit, je dirais, nommée à la tête du ministère du Travail, il y a une chose à laquelle il aura affaire, comme tout le monde, c'est le principe de réalité auquel il ne pourra pas échapper.
Merci beaucoup François Asselin d'avoir été avec nous, présent donc de la CGPM. Vous restez avec nous sur BFM Business, on marque une très courte pause et puis dans un instant on s'intéresse justement, on va parler travail, mais travail le dimanche. On s'intéresse donc au travail du dimanche voulu par la loi Macron avec Karl Gazi, c'est à suivre.
BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal, David Doba.
Le grand journal qui accueille un nouvel invité, Karl Gazi, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, vous êtes représentant CGT Clippé. D'un mot, Clippé, c'est une intersyndicale en fait de autour du commerce à Paris, c'est bien
Absolument.
Ça.
Absolument, c'est l'intersyndicale qui regroupe 4 syndicats parisiens de salariés du commerce.
Alors justement, ces syndicats, CGT, Sud, UNSA et CFDT ont protesté hier contre le projet de décret délimitant les futures zones touristiques internationales dans la capitale. Vous avez pu avoir accès à cette carte. Pourquoi affirmez-vous, au vu de cette carte, donc, que le projet d'Emmanuel Macron, qui n'est plus un projet, soit dit en passant, puisque la loi a été votée, a été adoptée, et la généralisation du travail le dimanche?
Parce que quand on regarde les effets concrets que va produire cette loi, elle va produire une généralisation du travail le dimanche. Macron a pris l'habitude de présenter sa loi par petits bouts, par petites parcelles. Mais quand on additionne les petites parcelles, les zones commerciales, les zones touristiques simples, gauloises, les zones touristiques internationales, les gares. Ça fait beaucoup d'exceptions au repos dominical et ça fait de fait une généralisation du travail le dimanche. Et le plan qui nous est proposé pour Paris, hein, c'est un document officiel que nous avons eu, hein, c'est pas un scoop, c'est pour consultation des syndicats, montre à quel point cette question de la fréquentation touristique de Paris était un prétexte à l'origine pour rouvrir le dossier du travail dominical. Parce qu'en fait, on nous cite comme zone touristique internationale le centre commercial de Beaugrenelle, Italie 2, la place de la République, enfin des coins qu'on connaît tous et dont tout le monde sait qu'ils ne sont pas touristiques.
Et qu'est-ce qui est surprenant à pouvoir imaginer, à se dire en tout cas qu'un centre commercial qui regroupe un certain nombre de magasins puisse devenir une zone touristique?
Mais c'est pas une zone touristique internationale à l'heure actuelle. Normalement, Macron, bah oui, mais tout peut le devenir potentiellement. Donc ouvrons tout, puisque tout potentiellement, la rue de Lourmel, qui est pas loin d'ici, ou la rue de Sèvres qui est pas loin d'ici, sont potentiellement des zones touristiques internationales. Donc, disons clairement les choses.
Ce que je reproche,
pardon de vous interrompre, mais ce qu'on reproche à Macron depuis le début, c'est de pas avancer. Franchement, il veut la généralisation du travail le dimanche, qu'on ait un vrai débat sur la généralisation du travail le dimanche, qu'il ne dise pas comme il le fait, je ne généralise pas le travail du dimanche, alors qu'il le fait en même temps.
Les gares, ça vous pose un problème également? Ça vous choque?
Les gares, quand souvenez-vous des débats, parce que c'est ça qui est important. Comment on a apporté les choses devant les Français? On leur a dit, il y a certaines gares de transit international où il est quand même très très ennuyeux que les magasins soient fermés le dimanche, par exemple la gare du Nord pour aller en Angleterre. Et là aujourd'hui on nous propose quoi? La gare Saint-Lazare? Aucune activité internationale, ou alors, ça fait longtemps que je suis pas allé à la gare Saint-Lazare, la gare d'Austerlitz, où même les trains de nuit ont du mal à aller en ce moment, on se fiche de nous. Ce sont clairement des prétextes pour tourner des arguments, ou pour utiliser des arguments fallacieux à destination des Français. On leur a dit, les pauvres touristes, ce qui était complètement faux, ils peuvent pas consommer en France, alors qu'il y a déjà des zones touristiques en France.
Qu'est-ce qui est faux là-dedans?
Ce qui est faux, par exemple, c'est que les touristes ne peuvent pas consommer en France le dimanche. Il y a déjà à Paris...
C'est compliqué.
20% des commerces qui sont déjà ouverts tous les dimanches.
Mais si vous regardez les autres villes, notamment européennes, et je ne parle pas des États-Unis, ou de l'Asie avec le Japon, où des pays sont ouverts 24 heures sur 24, effectivement, ça peut être compliqué pour un touriste de consommer en France le dimanche.
Bah, écoutez, ce n'est pas ce qui ressort, en tout cas, des enquêtes menées auprès des touristes. Les tour opérateurs eux-mêmes se sont exprimés sur la question. On a beaucoup parlé des touristes chinois qui n'arrivaient pas à fréquenter les grands magasins le dimanche. Les touristes chinois eux-mêmes n'ont jamais prétendu vouloir aller dans les grands magasins le dimanche. Ils trouvent leur compte dans les horaires actuels et jamais un touriste chinois, contrairement à ce que nous a affirmé un peu partout, y compris sur vos antennes, n'a quitté Paris pour Londres pour aller faire son shopping pour une raison très simple, c'est que le visa pour Schengen n'est pas le même que le visa pour Londres.
Mais le touriste, alors ne prenons pas un touriste chinois, un autre touriste peut très bien...
Ne prenons pas le touriste chinois, mais c'est le touriste chinois dont on nous a parlé pendant quand même 12 mois, maintenant il ne faut plus en parler parce que le yuan a été dévalué sans doute.
On a stigmatisé le touriste chinois, mais comme on a stigmatisé...
C'est 70% du chiffre d'affaires international des galeries Lafayette,
comme on a
chinois, donc on ne peut pas le mettre à l'écart.
Le plombier polonais, mais prenons le cas d'un touriste qui peut ne pas revenir en France parce qu'il ne trouve pas les services qu'il pourrait attendre d'un pays comme la France et d'une ville comme Paris.
En théorie, c'est vrai, en pratique, c'est faux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez dans Paris des zones touristiques qui existent déjà, qui sont ouvertes aux touristes depuis des années, qui a la possibilité d'acheter si on a envie d'acheter le dimanche, on peut le faire. D'autre part, quel est le bénéfice économique attendu? Aujourd'hui, un touriste, il ne dépense pas dans un magasin, il dépense ailleurs. Il a, comme tout le monde, un pouvoir d'achat
sur Internet,
sauf quelques nababs qui peuvent dépenser à foison, et ceux-là, ils sont pas concernés par ces ouvertures. Donc, ce touriste qui a un pouvoir d'achat limité, allons un petit peu au fond des choses. Ce qu'il dépense dans un grand magasin le dimanche, il ne dépense pas au restaurant. Ce qu'il dépense au restaurant, il ne le dépense pas dans un grand magasin. Donc, ces transferts de consommation et de dépenses, on est en train de nous expliquer que ça va créer de la croissance. Personne, à ce jour, n'a compris comment. Comment, avec 100 euros de dépenses, que ça soit dépensé là ou là, ça va faire une différence.
Ça ne sont pas les mêmes dépenses. On va pas dépenser, il va peut-être dépenser 30-40 euros dans un restaurant, 100 euros dans un parfum.
La marge bénéficiaire d'un restaurant est supérieure à celle d'un grand magasin. Donc il vaut mieux, à la limite, pour la valeur ajoutée, pour le PIB français qu'il dépense dans un restaurant, plutôt que dans un grand magasin. Si on va sur ce terrain-là, ça ne tient pas la route. Vous savez, aujourd'hui, le chiffre d'affaires total du commerce de détail produit par les touristes internationaux, c'est 5 milliards d'euros. Mm-hmm. On nous a tout dit autour de ça. Ça représente, vous savez combien, 5 milliards d'euros, 18 000 emplois dans le commerce. On nous a dit, ouvrons tous les dimanches, ça va créer 100 000 emplois. C'est le MEDEF qui l'a dit, ce sont les patrons de la grande distribution qui l'ont dit, et c'est le gouvernement qui l'a dit. Ça voudrait dire qu'en ouvrant un jour de plus par semaine, on multiplierait par 5 le chiffre d'affaires et le nombre de salariés. C'est absolument ridicule, ça ne tient pas la route une seconde, et pas un des arguments entre guillemets, qui ont été avancées ne tient la route.
Sur quelle étude est-ce que vous vous basez?
Ben, sur des études qui ont été faites par des organismes connus en France, mais également sur les études que nous menons nous-mêmes. Nous connaissons les chiffres des entreprises, nous connaissons leur fréquentation, nous avons les bilans sociaux, les comptes des galeries Lafayette, nous y avons accès. Donc on sait de quoi on parle. On connaît par exemple les horaires de fréquentation des Chinois aux galeries Lafayette. Le touriste chinois, il veut absolument pas aller aux galeries le dimanche, il veut y aller le samedi matin.
Alors, en l'occurrence, on parle pas des galeries, on parle beaucoup des Champs-Élysées.
On a beaucoup parlé des galeries.
Oui.
Ça a été cité par Laurent Fabius, ça a été cité par...
Beaucoup des Champs-Élysées.
Les Champs-Élysées sont déjà ouverts.
On peut parler de Sephora qui ferme.
Mais non, Sephora est ouvert tous les dimanches depuis 20 ans.
Jusqu'à
quelle heure? L'année dernière, ils étaient ouverts jusqu'à 2h du matin l'été.
Ils ferment du dernier à 21h.
On a fait respecter la loi qui protège les salariés du travail de nuit. Et pourquoi la loi protège les salariés du travail de nuit? Pour une raison très simple, c'est que le travail de nuit nuit à la santé, sans faire de jeu de mots.
Juste d'un mot.
Pardon, est-ce que vous pensez, je peux vous poser une question, on inverse un petit peu les rôles.
Généralement, c'est l'autre sens.
Oui,
mais bon,
je
c'est
sais
pas
bien, mais bon, ça animera.
Vous me la poserez hors antenne, parce que je vous en poser une. Comment expliquer quand même que sur les sites de e-commerce, le jour de pointe, ce soit le dimanche? Ça veut dire qu'il y a quand même une vraie demande de la part des gens qui ne trouvent pas en magasin parce que les magasins sont fermés, donc ils se rabattent sur Internet.
Bah, c'est peut-être parce que le jour, on a le plus le temps de surfer sur son ordinateur. C'est peut-être l'explication la plus simple.
Alors, pourquoi
nos grands-mères remplissaient-elles leur bon de commande La Redoute le dimanche? À votre avis?
Je ne sais pas.
Est-ce que ça prouve la supériorité de La Redoute sur les autres entreprises? Pourquoi une entreprise comme Virgin, qui ouvrait 7 jours sur 7 jusqu'à minuit tous les jours, a connu la déconfiture qu'elle a connue, puisque c'était la réponse à la concurrence d'Internet?
Parce qu'elle était dans un secteur particulier.
Donc on est bien d'accord que la réponse à la concurrence d'Internet, c'est pas les horaires. C'est l'offre qu'on fait, c'est le business qu'on fait. Et quand on n'arrive pas à s'adapter à ce que fait Internet, à ce que fait Amazon notamment, on se casse la figure. C'est pas une question d'horaire.
Dernière question, parce qu'on est vraiment pris par le temps, il nous reste à peine 40 secondes. Comment expliquer la faible représentativité des syndicats dans le commerce? J'ai cru 2-3%, c'est vrai?
Oui, c'est vrai.
Comment est-ce que vous l'expliquez?
Ben, de plusieurs manières. Ce serait trop long de tout vous dire là, mais il y a d'abord une très très forte répression antisyndicale. Je ne vais pas citer d'entreprise, mais certaines grandes entreprises de l'alimentation très très connues ont pour sport favori de licencier les délégués syndicaux. Il y a des taux de turnover extraordinaire. Chez Sephora, il s'élève à plus de 30%. Et donc, tout ça ne permet pas la constitution à long terme de rapports de force syndicaux. Les salariés sont là, ils tournent. Ils sont déjà dans des situations extrêmement compliquées, à temps partiel, au SMIC, la plupart le sont. Donc avec des salaires inférieurs à 1 000 euros, des difficultés dans les horaires, des horaires très éclatés. Donc il y a une vraie difficulté structurelle à avoir des syndiqués dans le commerce.
Merci beaucoup Karl Gazi d'avoir été avec nous. Donc hein, ce coup de gueule, on va le dire comme ça, de l'intersyndical du commerce parisien contre donc le travail du dimanche. Vous redoutez une généralisation du travail du dimanche. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous restez avec nous sur BFM Business. À suivre dans un instant la librairie de l'écho avec Emmanuel Le Chypre. Et puis évidemment, quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 12h30. Pour l'invité de BFM Business et puis en direct 18h-19h pour le Grand Journal. Passez une excellente soirée, à demain.